Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à ce 84e épisode du Bulletin GP. Ici Marc-André Fortin, toujours en remplacement d'Abdoussal, qui est en plein déménagement. Je lui souhaite bonne chance. Bientôt, tu seras dans ton nouvel appartement, Abdou, lâche pas. Et cette semaine, je serai seul, en fait, parce que Anna-Maria, la petite chanceuse, est partie en vacances. Elle visite le Québec avec sa petite famille. Donc, Anna-Maria, si tu nous écoutes, je te souhaite de bonnes vacances. Profite-en. Vraiment, va à la plage et profite au maximum de ces petites vacances. On te retrouvera très bientôt. Au menu ce soir, on a beaucoup de choses. Ben, je dis ce soir parce que j'enregistre actuellement mercredi soir. On a beaucoup de choses parce que c'est un menu qui est assez énorme. Beaucoup de choses se passent en Formule 1 présentement. On n'a qu'à penser à l'histoire Hamilton-Verstappen. On se souviendra que lors du dernier Grand Prix en Grande-Bretagne, lors du premier tour, Hamilton est venu chasser Verstappen de la course. Je vais le dire ainsi parce que c'est mon opinion. Je crois qu'Hamilton a fait preuve de négligence sur cet acte. Et là, je parle de façon bien personnelle parce que ce n'est pas l'opinion de tout le monde dans le groupe du bulletin GP. Donc vraiment, aujourd'hui, je vais prendre la parole en mon nom et je n'ai pas peur parce que je crois que Hamilton a fait preuve de négligence. Il aurait dû comprendre qu'il n'était pas en position de dépasser Max Verstappen. Et tout de même, il a décidé de le faire. Et c'est justement la raison pourquoi Hamilton est reconvoqué à la FIA devant les commissaires pour s'expliquer. Donc, pour les gens qui n'auraient peut-être pas trop suivi l'actualité dernièrement en Formule 1, Red Bull ont réussi à prouver, du moins, ont fait assez de choses pour que la FIA reprenne le dossier en main et décide de réécouter les deux parties pour décider si la pénalité d'Hamilton sera plus importante que celle qui a été donnée, qui avait été un 10 secondes. Et c'était pas un stop to go, donc c'était un 10 secondes clean où il n'avait pas besoin de repasser au puits. Donc, quand je regarde tout ça, d'après ce que la FIA mentionne, si Red Bull devrait avoir un élément plus percutant et un nouvel élément qu'il amènerait devant la FIA pour prouver qu'Hamilton a fauté beaucoup plus que ce que les commissaires en ont décidé le jour même. Maintenant, quelle est cette preuve présentement? On ne l'a pas présentement. La FIA ne l'a pas. Donc, on ne peut pas exactement savoir quelle était cette fameuse preuve. Et j'ai très hâte qu'on ait une petite information par la bande pour connaître l'identité de cette preuve qui pourrait potentiellement faire revenir les commissaires sur leur décision initiale qui était cette pénalité de 10 secondes qui a permis quand même à Hamilton d'aller chercher les 25 points. Maintenant, on est en audio. Je ne passerai pas l'épisode à parler de mon opinion par rapport à cet incident. Je pense qu'on en a assez parlé et je ne veux pas m'étendre plus que ça. Cependant, quand je regarde tout ça, je veux défendre quand même Verstappen. Vous savez que c'est un pilote que j'adore. En fait, c'est mon pilote préféré. Et ce n'est pas pour cette raison que je le défends. C'est tout simplement parce que dernièrement, on le présente comme un monstre. On le présente comme un pilote agressif, dangereux en piste. Et pourtant, on le présente comme un goon également. Et pourtant, quand je regarde sa feuille de route depuis 2018, elle est assez mince. Si on reprend, je suis allé voir par curiosité les pénalités qui avaient été décernées par les commissaires à Max Verstappen depuis les premières années. Bon, bien sûr, les premières années étaient assez difficiles pour Max Verstappen. C'est un jeune pilote. Il est arrivé à 17 ans sur le circuit. Bien sûr qu'il manquait de maturité. Il manquait d'ardeur au travail. Il était très agressif. Tous les pilotes disaient que dépasser Max Verstappen était comme pratiquement se noyer dans l'eau parce que c'était très dangereux de le faire. Et je vous donne raison, dans ses premières années, c'était très difficile. Et on a un nombre exponentiel d'incidents avec d'autres pilotes, que ce soit Kimi Raikkonen, qui a été souvent impliqué dans des accidents concernant Max Verstappen par son agressivité. J'ai une petite mémoire d'un Grand Prix en Belgique. Je n'ai pas l'année sur le bord de la langue, mais ça doit être en 2016, peut-être 2017, où que Max Verstappen commet quelques petites erreurs, freine et change de direction au freinage, qui est vraiment interdit, a été pénalisé notamment. Mais bon, depuis Monaco 2018, année où Max Verstappen était supposé gagner le Grand Prix, était supposé de repartir avec la victoire, il s'effondre dans le mur à Monaco lors des essais 3, ce qui l'empêche de participer aux qualifications. Et depuis ce moment, nous avons eu un Max Verstappen qui a été complètement changé. Sa philosophie, toujours, toujours autant agressif, mais avec l'arrière-pensée de « il ne faut pas que je cause d'accident, il ne faut pas que je cause d'incident, parce que ça met ma course en péril et ça met mon désir de gagner un championnat en jeu. » Et depuis ce temps-là, je vous dirais qu'il n'y a pratiquement aucune pénalité qui a été décernée à Max Verstappen. J'en ai trouvé 3, en fait. Donc, on remonte. En fait, je vais vous décortiquer un peu les pénalités qu'il y a eu. Il faut remonter au Japon 2018 pour avoir une pénalité de Max Verstappen qui était complètement en cause. Donc, je vais vous expliquer. Au Japon 2018, la pénalité a été décernée pour... c'est un point de pénalité sur sa licence pour avoir coupé la chicane et rejoint la piste sur la trajectoire en percutant Kimi Raikkonen. Donc, je parlais de pénalité tantôt, mais je voulais plus parler de points de licence perdus. Donc, au Japon 2018, c'est vraiment la dernière fois qu'il a été remis en cause pour une attitude en piste. Monaco 2019, Max Verstappen perd 2 points pour sa remise en action dangereuse dans la voie des stands durant la course. Donc, ce n'est pas pour une implication avec un incident avec un autre pilote. Et le petit dernier, et je vous rappelle, c'est un point sur la licence perdue. La dernière fois, c'est au Mexique 2019. Max Verstappen perd 2 points pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune durant la Q3. Le silence veut tout dire. Est-ce que l'attitude d'un goon, comme plusieurs aiment l'appeler, c'est ça? Pour moi, non. Pour moi, un goon, c'est un pilote qui, grand prix après grand prix, reçoit des pénalités, reçoit des manquements de la part des commissaires, reçoit des pénalités, des points de licence perdus. Moi, j'en vois 3 dans les 3 dernières années. Et la dernière fois qu'il a été remis en cause pour une attitude envers un autre pilote, c'est en 2018, au Japon. Donc, honnêtement, est-ce que Max Verstappen est un goon? Est-ce qu'il a une attitude de goon? Peut-être, mais ça n'en est pas un. C'est mon opinion. Donc, effectivement, c'est sûr qu'aucun pilote veut laisser la place aux autres. Et je ne reviendrai pas vraiment sur l'analyse de ma façon de voir parce que Max Verstappen a affronté un choc de 51G, force G, ce qui est vraiment, vraiment énorme pour un pilote, pour un corps humain même. Et heureusement qu'il n'a rien et qu'il a pu reprendre l'entraînement. D'ailleurs, il a passé la semaine en simulation, tout va bien. Il est très confiant de pouvoir revenir en forme lors du prochain Grand Prix et est motivé à reprendre sa revanche sur la piste de façon sportive. Donc, comme je disais, mon but aujourd'hui, c'est pas de revenir sur l'incident, de donner mon opinion, puis de vous faire une grande analyse sur la situation, parce que je trouve que à ce moment-ci, c'est un peu inutile. Je vais attendre de voir ce que Red Bull a entre les mains. Ce que Red Bull et ses avocats ont entre leurs mains pour remettre à la FIA. Donc, ça va prendre fin. Le sujet à propos de l'incident entre Hamilton et Verstappen, j'ai plus grand chose à dire parce que honnêtement, ça sert pas grand chose à revenir toujours sur cet incident. Je trouve que il faudrait plus se concentrer actuellement sur ce qui va arriver en fin de semaine à Budapest. ça va être un Grand Prix intéressant où ce que d'après Mercedes et Toto Wolff, ce sera pas un Grand Prix facile pour Mercedes. Il pourra avoir plusieurs difficultés. Même, ils l'ont pas avoué comme ça, mais il est possible que les Ferrari leur donnent un petit peu de misère durant le Grand Prix. De plus, il paraît que la pluie pourrait s'inviter à Budapest. On le rappelle, jamais la pluie s'est invitée à un Grand Prix depuis le début de la saison. C'est un moment qu'on attend tous parce qu'effectivement, ça donne le jeu stratégie est différent lorsque les pilotes roulent sur une piste mouillée. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir pour une fois de la pluie, pour une fois un spectacle avec une piste mouillée? J'aimerais tellement ça parce que ça l'ajoute tellement d'action à une course. Souvenez-vous d'Allemagne 2019, quel spectacle avec Hülkenberg qui, à la toute dernière, dans les derniers tours, échappe encore un podium alors qu'il était à la troisième position, contrôlait tout. La pluie s'invite, rentre dans le mur. Bien sûr, ce n'est pas voulu. C'est pas ce qu'on veut qu'un pilote rentre dans le mur. Mais l'excitation qu'une course mouillée nous donne, j'aime ça. Selon les, disons, l'horaire météorologique, il fera beau et chaud vendredi, ainsi que samedi pour les qualifications avec des températures culminant autour de 28 degrés. C'est le lendemain que cela pourrait se compliquer, disons, avec des températures en baisse et un vent plus soutenu. Le risque d'averses orageuses s'élevant à 25%, ce qui est pas beaucoup, honnêtement, quand on regarde tout ça. Mais quand même, c'est le risque d'averses orageuses. Donc, ça peut être de la pluie, de la grande pluie. Donc, c'est vraiment une situation qui sera suivie de près par les écuries parce que, effectivement, ça change complètement une stratégie si il est supposé pleuvoir le dimanche. Maintenant, quand je regarde tout ça, est-ce que l'incident entre Hamilton et Verstappen, oui, je reviens, j'avais dit que j'en parlerais plus, mais quelles seront les conséquences de cet incident entre les deux? Est-ce que Max Verstappen va vouloir se venger en piste? Moi, je crois qu'il va le faire de façon sportive. Je crois que ça va se passer sur la piste avec un comportement hors pair. Parce que bien sûr, si Verstappen répond, on met une petite mise en contexte, une petite hypothèse, si Max Verstappen répond, eh bien là, il est en tort. Il est en tort, puis tout ce que Red Bull et Verstappen vont avoir fait depuis une semaine, depuis deux semaines même, pour remettre en cause l'attitude d'Hamilton en piste, s'il décide de faire sa poule pas de tête et qu'il décide d'avoir un comportement dangereux en piste, eh bien, il vient de tout sacrer le travail et le pur labeur que l'équipe et l'écurie ont fait pour rien. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des collisions? Bien sûr qu'ils vont en avoir. C'est normal, on est en grand championnat, on est dans la plus grande course au championnat depuis Rosberg-Hamilton. Donc, c'est clair. Bon, oui, il y a eu Hamilton, Vettel, et je vais vous le donner. Mais c'est clair qu'il va y avoir d'autres collisions. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas aussi délibéré que ce qu'Hamilton a fait. Et oui, je le ramène. Hamilton a fait un geste délibéré. Peut-être qu'inconsciemment, c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais ses agissements en piste, il a été négligent, c'est tout. Et on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, j'espère que Red Bull gagnera sa cause. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est une opinion complètement personnelle. Donc, écoute, comme on a vu à Émilie-Romagne, Verstappen a été un peu agressif, a poussé légèrement Hamilton hors de la piste. Ça lui a permis de gagner. Donc, tu sais, quand je regarde tout ce qui pourrait arriver, je me dis que les deux sont assez matures. Et oui, Verstappen, mature. J'ai dit les deux mots dans la même phrase parce que j'y crois. Je crois que Max Verstappen manque peut-être un peu de maturité, mais c'est l'expérience qui va venir avec. C'est l'expérience qui va venir avec. Donc, oui, il va y avoir d'autres incidents. Maintenant, j'espère que ça se fera dans un cadre sportif et qu'on arrêtera de chercher des poux d'un côté comme de l'autre. À un moment donné, c'est fou à quel point la Formule 1, et ça c'est une pensée qui me vient en tête comme ça, de façon très délibérée, mais c'est fou à quel point que la Formule 1 se joue sur la piste, mais également en dehors de la piste, avec des comportements et des agissements de la part des équipes, des écuries. Il y a beaucoup de petits coups, des petits coups bas, des agissements justement de la part des deux écuries. Bon, on se rappelle que Mercedes avait critiqué l'aileron arrière de Red Bull. Ensuite, Red Bull s'est retourné et a dit à la FIA, ben voyons, avez-vous vu son aileron avant? Donc, c'est pour ça que, bon, c'est une petite guerre interne que plusieurs n'aiment pas. Moi, je trouve que ça rajoute du petit piquant dans la saison. Je trouve que, justement, la Formule 1 est un sport qui nous permet d'avoir un tel spectacle. Tu sais, c'est assez rare, bon, qu'au soccer ou au hockey, on puisse dire que l'autre équipe a fait quelque chose de mal ou est allé à la limite du règlement. Tu sais, bon, on peut en parler longtemps ici à Montréal. Désolé pour nos écouteurs français, mais à Montréal, il y a eu un grand tollé par rapport à ce que l'équipe gagnante de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, avait utilisé 18 millions de plus sur la masse salariale parce qu'il y avait un joueur qui était blessé pendant toute la saison. Et c'était un joueur assez important. C'était pratiquement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il était blessé jusqu'à la fin de la saison. Et comme par hasard, il est apparu en finale de la Coupe Stanley. Et bon, j'ai fait un petit tollé parce qu'on se disait, ah, est-ce que le Lightning de Tampa Bay a fait exprès de garder son joueur fétiche sur le banc de touche pour être sûr de l'avoir en finale et d'avoir une meilleure position avec plus d'argent sur le cap et tout ça. Bon, finalement, j'y crois pas. Honnêtement, je pense que tout était légal et Kucherov était réellement blessé. Mais tout ça pour dire que la Formule 1 est l'un des seuls sports, à mon avis, où tu peux vraiment chercher des poux chez l'autre et trouver des petits détails là, qui vont faire une différence dans la course au titre. Donc, je m'évade un peu. Effectivement, écoute, ça va arriver dans cet épisode parce que, bon, je suis seul. Je peux pas poser de questions à mes collaborateurs. Donc, c'est sûr que je vais essayer de moins en moins, disons, m'évader. Mais, tout ça pour dire que j'espère que les conséquences vont nous amener de cet incident, vont nous amener des points positifs. Et dès Budapest, on sait que le classement s'est vraiment rapproché depuis que Hamilton a gagné 25 points, alors que Verstappen n'en a eu 0. La différence de points est rendue à 7 en avantage pour Verstappen. Donc, ça va être important, effectivement, pour Verstappen de remporter le prochain Grand Prix. Et n'oublions pas l'apport de Perez dans la course en Grande-Bretagne. Oui, je m'évade encore, mais rappelons-nous que Hamilton avait ce qu'on appelle le petit point pour le meilleur tour en piste lors de la course et que Perez est venu faire le petit boulot de coéquipier en lui enlevant au dernier tour. Donc ça, c'est un point important qu'Hamilton a perdu quand même. Lorsqu'on va regarder le résultat à la fin de la saison, il est possible que ce soit ce point qui va faire la grande différence. D'ailleurs, je parlais de la fin de la saison. On a appris aujourd'hui, cette semaine, c'est toujours dans les rumeurs, donc je vais parler au conditionnel. Donc il serait possible que la dernière course de la saison se fasse dans un endroit, disons, assez controversé. Bon, et j'ai parlé de l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite pourrait conclure cette saison? C'est tout simple, parce qu'il est possible que Abu Dhabi, ce qui est l'endroit par excellence pour la Formule 1, pour terminer une saison depuis des années ne puisse pas faire partie du calendrier en raison de la présence d'Abu Dhabi sur la liste rouge de la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne a quelques, disons, pays qui se retrouvent sur la liste rouge de... Donc, en fait, tous les Britanniques ne peuvent pas voyager de la Grande-Bretagne jusqu'à Abu Dhabi sans faire une quarantaine de 10 jours au retour du Royaume-Uni. Donc, ça complique énormément les choses. Donc, effectivement, il est possible qu'Abu Dhabi ne fasse pas partie du calendrier. Mais on n'est vraiment pas rendu là. On n'est vraiment, vraiment pas rendu là. C'est encore loin. Mais je voulais vous le dire que c'est possible que l'Arabie Saoudite fasse en fait présence lors de la fin de la saison. Et on espère quand même que la course au titre se rende jusqu'à là. Maintenant, on se souviendra que l'Arabie Saoudite a eu beaucoup de critiques. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a vraiment essuyé de graves critiques par plusieurs personnes et j'en suis un. Je trouve que de populariser un endroit comme ça, un endroit où les droits de l'homme sont chassés, sont pas respectés, il me paraît un peu imbécile. Je vais utiliser ce terme-là, imbécile d'aller là, puis de montrer à quel point ce pays est magnifique, alors que plusieurs journalistes se retrouvent emprisonnés. D'ailleurs, un Sherbrookois du nom de Raif Badawi est en prison depuis des années pour avoir ouvert un petit blog qui critiquait le gouvernement. Et présentement, il est en prison. Et depuis ce temps-là, plusieurs actions sont mises par plusieurs organismes en droit de l'homme pour le sortir de là. Donc, c'est impensable pour moi d'écouter ce Grand Prix en sachant que Raif Badawi est en prison pour un crime qui est seulement d'écrire contre le gouvernement. Pour moi, c'est vraiment un... Je vais pas du tout écouter ce Grand Prix. Donc, j'espère de tout mon cœur que ce soit pas ce Grand Prix qui conclut la saison et que le championnat va se dérouler ailleurs pour ne rien manquer du championnat. Donc, voilà. D'après ce que Motorsport a admis, du moins, ils ont rapporté la nouvelle cette semaine, le promoteur du Grand Prix d'Arabie Saoudite aurait rencontré plusieurs pilotes et en fait, ils ont avoué qu'Hamilton ne faisait pas partie des pilotes rencontrés parce que, bon, vous savez, Hamilton a critiqué beaucoup, énormément la présence de la Formule 1. La présence du Grand Prix d'Arabie Saoudite dans le calendrier. Il n'a pas caché ses mots, bien sûr. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir, mais le promoteur du Grand Prix d'Arabie Saoudite a rencontré des pilotes pour un peu les rassurer, disons, leur montrer les bienfaits de l'Arabie Saoudite et tout ça. Donc, je vais essayer de retrouver l'article pour être certain de vous donner la citation exacte. Donc, c'est le prince Khalid bin Sultan Abdullah Al-Fazal, qui est le promoteur du nouveau Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui est allé vraiment à la rencontre des pilotes pour, comme je le disais tantôt, répondre à leurs préoccupations concernant justement le respect des droits de l'homme dans ce pays. Donc, je vais retrouver la citation. C'est une entrevue exclusive avec Motorsport. Ça va ainsi. Le prince avoue. J'ai rencontré plusieurs pilotes à Silverstone. Je ne vais pas citer leurs noms, mais Lewis Hamilton n'en faisait pas partie. J'ai parlé avec eux ouvertement. Je leur ai dit de venir en Arabie Saoudite pour qu'ils voient ce qui se passe. Il faut se rendre sur place, rencontrer les habitants, et alors vous pourrez voir et vous faire votre propre opinion. Je suis sûr que les pilotes ont des amis qui sont venus pour la Formule E ou le Dakar. Ils pourront leur en parler. C'est en venant chez nous qu'ils pourront ensuite se faire un avis parce que nous avons confiance en nos progrès passés et futurs. Nous avons donc aucun problème à parler des droits de l'homme. Je lis ça et je pense à Raif Badawi et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur qu'il continue à montrer son pays comme étant un grand pays qui respecte les droits de l'homme alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà. Est-ce que... J'ai hâte de voir les conséquences de la présence de ce Grand Prix. Maintenant, évidemment, si le championnat se joue à au Grand Prix d'Arabie Saoudite, ben c'est certain que je crois que l'aspect sportif va ressortir et probablement que si le championnat se joue là, même moi qui ai des valeurs très fortes en droits de l'homme, je vais peut-être être tenté de regarder ce Grand Prix et malheureusement d'encourager ce pays à avoir un Grand Prix uniquement parce que l'aspect sportif est tellement important. Mais en même temps, j'espère me retenir et ne pas encourager ce Grand Prix. On verra. Mais en fait, je vais vous le partager dans quelques semaines, quelques mois. Je ne pense vraiment pas me laisser aller par tout ça parce que je trouve ça inacceptable d'avoir un Grand Prix là-bas. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est les options que Williams pourrait potentiellement devoir regarder pour 2022 si jamais en cas de départ de George Russell vers Mercedes. Maintenant, qui sont-ils? Plusieurs personnes parlent de Bottas, évidemment, celui qui quitterait Mercedes en cas d'arrivée de George Russell. Mais bien sûr qu'il va tenter de trouver une écurie pour se réfugier. Est-ce que ce sera son ancienne écurie? Donc, pour les gens qui suivaient peut-être pas la Formule 1 au moment où Bottas a quitté vers Mercedes, avant il était avec Williams. Donc, est-ce que ça peut être une option? On parlait aussi de Nyck de Vries était l'une des personnes et des pilotes qui pourraient potentiellement être dans les discussions. On sait que c'est le leader du championnat dans l'équipe Mercedes en Formule E. Donc, ses résultats sont forts et éloquents. Sinon, on parlait peut-être de Stoffel Vandoorne qui était avec McLaren avant, qui est actuellement... qui a été le champion du monde en Formule 2 en 2019. Plusieurs disent à quel point il est un bon pilote, à quel point il mérite d'être en Formule 1. Je suis d'accord que Stoffel Vandoorne est un bon pilote. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il va être en mesure de revenir comme ça en Formule 1 après tant d'années. Daniel Kvyat aussi, vous voyez, il y a tellement d'options. Daniel Kvyat était également dans les discussions. On parle aussi de Nico Hülkenberg qui pourrait peut-être passer par Williams. Donc voici tous les noms qui sont mis de l'avant en cas de départ de George Russell qui, je pense que vous connaissez tous mon opinion à propos de cette situation. Je crois que ça fait longtemps que Bottas aurait dû quitter Mercedes au nom de George Russell, qui fait du travail extraordinaire depuis le début de la saison avec Williams et depuis l'an dernier. Il n'a plus d'affaires dans cette voiture qui ne roule pas. Il doit absolument passer à une autre étape. Et cette étape, c'est celle de Mercedes où il va pouvoir avoir un cheval de course assez bon pour lui permettre de tenter de gagner à chaque fin de semaine. Il va pouvoir aussi faire aller son talent pour être certain de profiter au maximum de tout ça. Donc, écoutez, j'ai fait le tour des petits sujets que je voulais faire avec vous. Ça a été un court épisode, je vous le donne. Mais c'était le but aussi parce que, bon, je suis en solo. C'est pas la chose la plus extraordinaire à écouter, je le sais. Si vous vous êtes rendu là, merci beaucoup parce que... Écoute, c'est toujours plus le fun d'avoir des collaborateurs et des gens à qui parler, à qui poser des questions, à qui interagir, et même débattre, comme j'aime le faire avec Abdou à l'occasion. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui ont écouté. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, afin d'avoir toutes les informations sur les podcasts. Maintenant, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. On est présent partout et on veut vous parler surtout. On veut que vous interagissiez. On veut interagir avec vous. On veut avoir votre opinion. On veut que vous nous posiez des questions qu'on pourra possiblement répondre dans le podcast. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On est toujours bien sympathique. C'est Abdou qui gère le Twitter et les réseaux sociaux du Bulletin F1. Et il est toujours extraordinairement bon. Je l'apprécie énormément pour ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de semaine. Peu importe quand vous allez nous écouter. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Marc-André Fortin en remplacement d'Abdou Sall. Donc, on va avoir un Grand Prix extraordinaire la semaine prochaine. J'ai très hâte en fin de semaine parce que je souhaite une petite victoire de Max Verstappen pour un petit peu prendre une certaine revanche sur Lewis Hamilton et son agissement en piste. Oui, c'est la dernière fois que je l'ai dit. Hamilton est coupable. Salut à tous. Profitez bien de votre semaine. Au revoir.